hors champ. Orchamps, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Orchamps ce soir en compagnie de Cécile Guilbert. Là, lecteur, des tombereaux de gémissements romanesques décomposés en vrac, dégoûté par ces flopées d'écrivains qui roulent sur la pente du néant et se méprisent eux-mêmes avec des cris lugubres, assommé par tous ces livres moins que rien que c'est pas la peine. Je te comprends, moi aussi. C'est comme ça que commence votre livre « L'écrivain le plus libre », Cécile Guilbert. Et on peut noter que tous vos livres sont empreints de cette adresse au lecteur et de cette mise en abîme de l'écriture.
Vous remarquerez que je n'ai pas encombré tellement en 17 ans les rayons romanesques.
Non, pas encombré, mais à chaque fois, vos livres sont des coups de poignard.
Ah, vous trouvez mais c'est parce que c'est une façon de propulser de l'énergie, en fait. Et c'est vrai que le lecteur est cette chose abstraite, cette abstraction. J'ai pas envie que ça soit une... un chiffre, une abstraction chiffrée. J'ai envie de m'adresser à lui. Alors en plus, là, c'était un livre effectivement consacré à un auteur qui, par définition, s'est extrêmement adressé au lecteur, puisque c'est Laurent Sterne, qui est sans doute le premier écrivain occidental à autant inclure le lecteur dans son écriture. Donc c'était amusant de reprendre ce procédé.
Oui, mais ce n'était pas simplement une reprise de procédé, c'est aussi une manière d'empoigner le lecteur dans votre définition même de l'écriture. Parce que quand on regarde et quand on relit Warhol Spirit, c'est la même chose. On parlera aussi tout à l'heure du livre Réanimation. À chaque fois, le lecteur a sa place dans le processus même de l'écriture. C'est une adresse. Vos livres sont des adresses.
Je n'y avais jamais réfléchi ainsi, mais puisque vous m'y obligez, oui, sans doute.
Je ne sais pas si vous l'imaginez, le lecteur, d'ailleurs, quand vous écrivez.
Pas tellement, non. Pas tellement, mais j'ai l'impression de l'imaginer davantage que certains auteurs qui ne l'imaginent pas du tout et qui sont un peu comme ça dans une bulle autistique sans se soucier du lecteur. Je pense qu'il faut toujours ramener, ou le lecteur, ou en tout cas le contemporain dans ce qu'on écrit, et y compris quand on écrit sur les figures du passé, parce qu'on les lit au présent, donc...
D'ailleurs, en exergue de ce livre sur Laurent Sterne, il y a une citation d'Arthur Cravant. « Ce livre a certainement sa place dans la surproduction contemporaine. » Donc là aussi, humour, mise en abîme.
Oui, parce que les problèmes sont éternels, quoi. C'est toujours le problème. Est-ce qu'on va trouver des lecteurs? Est-ce qu'il n'y a pas trop de livres? Qu'est-ce qu'un livre va peut-être à la prétention peut-être de dire quelque chose de nouveau? Peut-être pas. Donc voilà, il faut jouer avec tout ça. Il faut avoir de l'humour parce qu'il y a beaucoup de livres.
Votre premier livre et la découverte, c'était Saint-Simon. Nous vous avons découvert grâce à ce livre.
Oui, Saint-Simon, c'était mon premier essai. Publié en 1994. Et en fait, Saint-Simon m'a servi à exorciser une expérience personnelle. Et plutôt que de la raconter dans un récit ou un roman, d'ailleurs j'avais commencé à écrire un récit ou un roman, mais il n'était sans doute pas assez bon et je m'en suis vite lassé. Je me suis intéressé davantage à Saint-Simon. Et c'est par le truchement de ce mémorialiste qui avait vécu dans les coulisses de Versailles et qui avait observé la bassesse de ses contemporains et parfois la grandeur, j'ai pu exorciser comme ça quelque chose que j'avais vécu. Et voilà, j'ai commencé par... m'emparer de figures comme ça pour avancer personnellement, mais un peu dissimulé derrière eux, on pourrait dire ça.
Quelle est votre formation?
Alors moi j'ai fait Sciences Po, et en fait je voulais faire l'ENA parce que je voulais écrire, mais je pensais qu'on ne pouvait pas vivre de ses livres. Donc j'avais un rêve quand j'étais jeune, je me disais j'aimerais être un écrivain diplomate. Et ce modèle-là me faisait pas mal fantasmer. Donc je me disais, si jamais je réussissais l'ENA, je demanderais, et que je sorte assez bien, je demanderais le quai d'Orsay ou quelque chose comme ça. Comme j'adore aussi voyager, je trouvais que c'était joint...
Comme Saint-Jean-Père, ce Romain Gary.
Voilà, ou Paul Morand, mais qui est une référence plus problématique. Enfin oui, ce genre-là, ce genre un peu qu'on a vu sous la Troisième République. Je me moquais bien d'ailleurs que les diplomates soient dépossédés un peu de leur pouvoir et qu'ils en aient moins que leurs aînés. Mais je trouvais que cette idée à la fois de voyager et d'avoir une forme de sécurité de l'emploi, finalement, c'était pas mal. Et puis finalement, j'ai raté l'ENA et tous mes plans se sont effondrés. Ceci étant, j'ai un peu travaillé après mes études. Je suis parti vivre un an aux États-Unis, qui était une sorte d'année sabbatique et où j'ai fait de l'anglais à outrance, etc. Et puis quand je suis rentré, il fallait que je travaille. Donc j'ai trouvé deux jobs successifs, un dans un cabinet ministériel et puis après dans un cabinet d'entreprise. J'ai été speechwriter, j'ai fait des choses comme ça. Et puis après, j'ai tout envoyé bouler et j'ai écrit Saint-Simon.
Et pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que je pense qu'en fait, j'avais terriblement envie d'écrire et je pense que ça suppose une forme comme ça d'asocialité peut-être et de sauvagerie qui n'est pas compatible avec les usages sociaux tels qu'on les conçoit. Et puis il me fallait du temps et puis j'avais envie d'une liberté plus grande. Et ce système du travail salarié avec toutes ces contraintes ne me plaisait pas.
Nous allons écouter la voix de Vladimir Nabokov qui va parler de son enfance. Vous avez préfacé Nabokov. C'est un entretien avec Bernard Pivot qui date de 1976.
Je suis né dans une vieille famille russe à Saint-Pétersbourg. J'ai passé mes premiers étés à la campagne dans notre domaine, non loin de Pétersbourg. En automne, on allait dans le midi à Nice, Pau, Biarritz, Abatia. Et en hiver, c'était toujours Pétersbourg, qui est maintenant Leningrad. Mais où notre belle maison de granit rose est toujours là, en bon état, extérieurement au moins. Mm-hmm. Parce que les tyrannies, vous savez, elles aiment l'architecture du passé. Notre domaine était situé dans la plaine boisée. Elle est assez proche par sa flore du coin nord-ouest de l'Amérique, des forêts de trembles, de sombres sapins, beaucoup de bouleaux et des tourbières splendides, avec une multitude de fleurs et de papillons. Cette phase totalement heureuse dura jusqu'au coup d'État bolcheviste. Le château fut brûlé par des paysans un peu trop zélés et la maison de ville fut nationalisée. Et en avril 19, trois familles de Nabokov, celle de mon père et celle de ses deux frères, furent obligées à quitter la Russie via Sébastopol. L'armée rouge venant du nord envahissait déjà la Crimée, où mon père avait été ministre de la justice dans le gouvernement provincial pendant la brève période libérale avant la terreur léniniste. La même année, en octobre 19, je commençais mes études à Cambridge.
Nous venons d'entendre la voix de Nabokov, qui est une de vos références. Et on peut dire, Cécile Guilbert, que vous avez un champ littéraire assez encyclopédique et très vaste, à la fois patrimonial et ultra-contemporain. Comment est composée votre bibliothèque? Relisez-vous certains textes? Vous faites beaucoup de références dans vos bouquins, mais ce ne sont pas des références pour montrer que vous connaissez tel ou tel auteur, que vous avez lu tel ou tel livre, c'est plutôt comme des espèces de points d'énergie.
Oui, mais en fait, c'est comme écouter de la musique, en fait. Et c'est intéressant que vous donniez cette pièce d'archive de Nabokov, parce que le français a cette particularité par rapport aux autres langues, qu'il a énormément de strates historiques qui s'enfoncent de façon très... très riche dans le sol de la langue, c'est-à-dire qu'entre le français du XVIe siècle de Montaigne et le français d'aujourd'hui, on passe par le XVIIe, par le XVIIIe, par le XIXe, et la langue, à chaque fois, charrie une syntaxe, un lexique qui est différent. Et toutes ces couches historiques sont un peu comme des musiques. Alors évidemment, si aux virtualités propres de la langue, on ajoute l'art des écrivains, on ouvre une page de on ouvre une page de Proust, c'est pas une page de Chateaubriand, on ouvre une page de Saint-Simon, c'est pas la page de Sade, mais en même temps, il y a toujours cette grande vibration du français. Et je fais référence à Nabokov parce que Nabokov, ça c'était une de mes grandes théories, c'est-à-dire qu'il a compris très, très, très vite, il était un tel artiste, il a compris très vite que le russe dans lequel il avait écrit la moitié de son œuvre, en fait il était allé au bout du russe avec le Don, qui est son suprême chef-d'œuvre en russe, et que s'il voulait continuer à développer son art, le nourrir, l'enrichir et avoir cette possibilité ludique, il fallait qu'il passe à une autre langue. Et comme il était un génie, il a réussi, en passant à l'anglais, à rentrer dans une autre langue, qui, avec le français, l'anglais, la langue qui a le plus aussi de racines et de passé en termes de syntaxe, parce qu'entre l'anglais de Shakespeare et l'anglais du XVIIe et de celui d'aujourd'hui, il y a aussi un peu la même histoire. Ce que ne produit pas le russe, ni l'italien, ni l'espagnol, ni d'autres langues comme ça.
Qu'est-ce qu'un génie ?
C'est l'enfance retrouvée à volonté, disait Baudelaire, et je pense que c'est vrai dans le cas de Nabokov, c'est-à-dire, moi, je l'admire tellement, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui est totalement dépourvu de ressentiment. Voilà, il dit qu'il a quitté la Russie, qu'il a tout perdu, il venait d'une riche famille aristocratique. Il n'y a jamais l'once d'un ressentiment chez Nabokov. C'est vraiment un aristocrate, pas au sens de la classe, mais au sens de l'éthique. C'est-à-dire, ok, on a laissé tout, on a tout perdu, mais c'est pas grave. En fait, on porte sa richesse en soi, et c'est un grand artiste parce qu'il est capable de sa sensibilité est ultra développée. Il est capable de capter le moindre iridescence d'une aile de papillon devient quelque chose d'extraordinaire. Et tout son enfance, tout son passé, tout ce qu'il vit devient à la fois un objet de jeu, parce que l'art est un jeu. L'art au sens de l'artifice, de créer quelque chose de un artefact. Donc je l'admire beaucoup pour ces raisons et aussi parce qu'il a été capable de s'enfoncer dans deux langues magnifiquement et de produire des chefs-d'œuvre à tour de bras.
Alors vous êtes une amoureuse des auteurs, vous êtes une critique littéraire, vous êtes aussi quelqu'un qui redonnait envie de lire des auteurs qui ont été un peu recouverts par soit de la mauvaise célébrité, soit de la fausse notoriété. Comme par exemple Jacques Kerouac, nous allons écouter un extrait d'une conférence donnée par Kerouac le 6 novembre 1958. But they asked me to write an article.
On m'a demandé d'écrire un article
about the Beat Generation.
Sur la Beat Generation.
It fits right in with the question of the dean.
Et si ça plaît à monsieur le président de l'université, ça s'intitule la Beat Generation. Donc c'est un article très drôle sur ma relation avec la Beat Generation. Donc comme je n'ai jamais fait de discours, j'en ai écrit un.
This article necessarily will have to be about myself.
Cet article doit porter sur moi, donc je me lance.
That nutty picture of me on the cover of On the Road results from the fact that I had just gotten down
sur la couverture de sur la route. J'avais l'habitude de me coiffer, puisque comme je traînais beaucoup sur la route, j'aimais bien que les filles me prennent pour un garçon et pas pour une bête sauvage. Et comme Oscar Levant, il fallait que je tienne bon. Mais mon ami poète, Gregory Corso, a ouvert sa chemise, a brandi un crucifix d'argent qui pendait au bout d'une chaîne et qui a dit « Allez, porte ça et arrête de coiffer tes cheveux. » Donc j'ai passé plusieurs jours avec lui à San Francisco où on a traîné de bar en bar. On est allé dans les églises, on a lu de la poésie. On a marché, on a parlé, on a fait de la poésie. Et puis on a rencontré ce gang de truands qui nous a dit « Pourquoi vous portez ça ?» Et mon gang de poètes et de musiciens a dit oh, « Calmez-vous, pourquoi vous ne revenez pas dans 1000 ans et vous nous racontez tout ce qui s'est passé ?» Et récemment, Ben Hecht m'a dit
«
Mais pourquoi vous ne dites pas ce que vous pensez ? De quoi vous avez peur ?» C'est à moi qui parlais. Et tout ce qu'il voulait, c'est que je raconte des choses contre les gens, des choses méchantes. Donc j'ai rencontré plein de gens comme ça. Et c'était son idée de la liberté.
Qui
sait, mon Dieu, si l'univers n'est pas une grande mer de compassion, en fait.
Nous venons d'entendre la voix de Kerouac, c'est une archive très rare. Et Kerouac, vous lui consacrez un chapitre qui s'intitule « Kerouac l'incompris » dans ce livre que vous avez publié qui s'intitule « Sans entrave et sans temps mort ». Et vous dites, et vous avez raison, je pense, de le dire, mais surtout en ce moment où ça devient de plus en plus majoritaire après la sortie de ce film qui n'est pas très bon, sur la route, vous dites à propos de Kerouac, « Kerouac demeure scandaleusement réduit au cultissime sur la route, bréviaire Cool et Rebelle, devenu comme toutes les œuvres Cool et Rebelle, une marchandise rentable pour la totalité des secteurs de l'industrie de loisirs. Et il y a un petit côté Hannah Arendt hein, sur la crise de la culture, là.
Non, mais sans faire des théories sur effectivement le ce qui est devenu le monde culturel, mais je pense qu'on peut toujours garder ce distinguo à l'esprit qu'il y a l'art et qu'il y a la culture. C'est-à-dire, c'est la phrase de Godard, fameuse phrase de Godard dans JLG, JLG, qui m'avait tant frappé à l'époque. Parce que l'art est minoritaire et la culture est majoritaire. Et je pense qu'effectivement, dans le cas de toutes ces œuvres d'art qui sont du langage, de la pensée, de la littérature, de la poésie, évidemment, elles sont irréductibles et les porter à l'écran, vouloir en faire des scripts, vouloir en faire d'un film, on en fait autre chose, évidemment. Alors moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas les adapter, je ne suis pas réactionnaire au point de dire ça, mais c'est bien différent. Mais ce qui m'a choqué, en revanche, c'est que, étant allé voir récemment le fameux rouleau de Kerouac qui est exposé au musée des manuscrits, j'ai été quand même un peu surprise de voir que dans un lieu qui est comme patrimonial à mort, puisqu'il s'agit d'un endroit où on expose les manuscrits, donc en fait on expose l'encre et le sang des écrivains, d'une certaine façon les reliques, les produits de leur corps, ce qu'ils ont écrit ou tapé à la machine, il y avait toute une partie de l'exposition, et presque hégémonique en fait, qui était consacrée à cette fameuse adaptation cinématographique. Je pense que là il y a quelque chose, une irradiation du spectacle dans ce qui est sur la route, qui est tout à fait surprenante et qui a presque pas de sens en fait. Vouloir expliquer en quoi les personnages réels de la vie de Kerouac ont été infusés dans sur la route comme des personnages, puis après redécalqués à l'écran, me semble tout à fait oiseux. Je ne crois pas qu'on va séduire les gens en leur montrant un mauvais film pour leur faire lire sur la route.
Comment choisissez-vous vos hommes, si j'ose dire? Parce que c'est vraiment vos hommes quand on lit vos livres. Laurence Sterne, vous l'êtes approprié, c'est devenu un amant, je dirais. Andy Warhol, c'est devenu un compagnon insaisissable parce qu'il vous échappe sans arrêt. Et cette espèce d'évanescence du personnage de Warhol qui lui-même passe son temps à essayer de disparaître dans le regard des autres et même peut-être dans l'intériorité de son propre regard, eh bien vous en avez fait la dynamique de l'écriture de ce livre qui s'intitule Warhol Spirit. Vous rentrez à l'intérieur de la scansion de l'écriture, du corps de l'écrivain, parce que les corps sont très importants hein, dans les hommes.
Oui, les corps sont importants, mais en fait, quand on voit les choses après coup, ça crée une distorsion. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous voulez, comment arrivent les livres, en fait, c'est un peu comme comment arrive l'esprit aux filles, quoi. Comment arrivent les livres, comment arrivent ces enfants de papier, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, j'ai lu Tristram Shandy et que j'ai trouvé ça insensé, très surprenant. Ça m'a beaucoup fait rire et excité ma curiosité. Et j'ai cherché à me renseigner sur Laurence Sterne. Et je n'ai trouvé aucun livre en français sur Laurence Sterne. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que cet écrivain qui a fasciné des générations d'écrivains, ses contemporains, les hommes des Lumières, tous les romantiques allemands, et puis tout après tous les grands écrivains du XXe siècle, soit à ce point oublié, on ne trouve pas une biographie de lui, on ne trouve pas un essai sur lui. Bon, comment se fait-il?
Et en fait, mais ça ne vous suffit pas. Après, vous y allez. Vous allez lieux où les écrivains ont vécu.
Et oui, parce qu'en fait, pour écrire ce livre, il a fallu que je me déplace parce que je ne trouvais rien en France. Donc, il a fallu que j'aille en Angleterre, il a fallu que je fasse les bibliothèques, il a fallu que je fasse les bouquinistes.
Les pubs aussi.
Les pubs, que je rapporte des livres, que j'aille enquêter, que je mène une véritable enquête sur ce Laurence Sterne. Ce qui est amusant dans ce cas-là, c'est qu'en fait, on produit la vie à partir de ce qu'on a envie d'écrire, on vit en conséquence. Donc c'est ça qui est amusant quand on écrit. Pour Warhol, moi j'ai toujours aimé beaucoup Warhol, mais enfin pas au point de lui consacrer un livre, en fait. Je pensais jamais lui consacrer un livre. Et puis c'est un jour un éditeur qui m'a dit « Est-ce que vous voulez écrire le tombeau d'un grand homme ?» Alors j'ai dit « Oui ». Et puis en fait, comme je travaillais à l'époque sur un projet de roman qui n'a jamais vu le jour consacré à où Warhol était présent, je me suis dit, après tout, pourquoi pas Warhol? Et c'est là où je me suis aperçu que c'était très compliqué de considérer Warhol comme un grand homme et que ça enclenchait la mécanique de Warhol Spirit, qui est un livre qui s'interroge sur ce qu'était Warhol. Est-ce qu'il était un grand homme? Peut-être pas, mais il était sûrement un artiste très célèbre. Et quel type de qualité il pouvait avoir? Et ben, peut-être que c'était pas vraiment un idiot, peut-être que c'était un sage. Et voilà, tout s'est tricoté de cette façon. Mais si vous voulez, c'est des circonstances. Et pas tout d'un coup, j'ai un océan de possibilités, puis tout d'un coup, je vais piquer quelqu'un comme ça, au hasard. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Mais c'est, au bout du compte, oui, alors du coup, Warhol fait partie de mon panthéon, mais en fait, c'est, c'est, c'est presque un accident, parce qu'en fait, je m'intéresse plutôt aux gens qui ont écrit. Alors, vous allez me dire, oui,
mais il a écrit.
Oui, alors justement, il a écrit, il a écrit des livres, il a pensé. Donc, mon livre se base plutôt là-dessus que sur, évidemment, son art visuel. Oui, il faut que les gens, il faut que ces personnages aient une pensée, il faut qu'ils puissent manier une sorte de paradoxe, et surtout qu'ils continuent à nous parler aujourd'hui.
Surtout, ils savent tout faire, hein, ceux qui vous intéressent. Alors, Warhol, c'est un livre-objet, c'est un livre là aussi mis en abîme de l'écriture, du cinéma, de la photographie, de la peinture, de l'idée même de l'écriture. Et je prends un dialogue entre Scott Cohen et Andy Warhol que vous citez. Scott Cohen, êtes-vous toujours vierge ? Andy Warhol, ouais, je suis toujours vierge. Scott Cohen, n'êtes-vous donc jamais excité par tous ces gens magnifiques qui vous entourent ? Andy Warhol, je pense que seuls les gens très jeunes devraient baiser. Ceux qui ne le sont plus ne devraient jamais être excités. Après 25 ans, vous devez seulement regarder, jamais toucher. Et là, vous avez un chapitre absolument passionnant sur la sexualité d'Andy Warhol, où vous dites, en vous basant sur un travail considérable, à chaque fois, je pense que chaque livre, Cécile Gilbert, est le fruit d'un immense travail. Vous dites, et vous citez Warhol, qu'il a été amoureux plusieurs fois, d'ailleurs il le dit, « Mon cœur s'est brisé plusieurs fois », confesse-t-il dans son journal, « mais aussi, il faut que je tombe amoureux maintenant ou je vais devenir fou, je dois éprouver quelque chose ». Et vous avez une petite théorie en disant que finalement il est peut-être mort vierge. Pulsion scopique, mais vierge.
Comme il était plutôt attiré par les hommes que par les femmes, on peut en déduire qu'il était homosexuel, même s'il avait beaucoup de mal à toucher les corps des hommes et à se laisser toucher, parce qu'il avait comme ça comme il n'était pas très à l'aise avec son corps, il fuyait le contact physique. Alors c'est très paradoxal chez lui, c'est que quand on dit qu'il est vierge et qu'il dit qu'il est vierge, c'est sans doute que techniquement, il ne pouvait pas supporter l'acte de pénétration. Mais en revanche, il n'était pas du tout chaste, parce que c'était un voyeur. Il adorait regarder les autres faire l'amour, que ce soit des hommes, des femmes, entre eux, toutes les combinaisons. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cet homme qui passe pour le parangon, effectivement, de la neutralité, de la passivité, qui dit le sexe, c'est fatigant, c'est trop de boulot, finalement, je préfère ne pas, un peu comme une sorte de Bartleby du sexe. Je préfère ne pas et m'en tenir là. Et finalement, il avait besoin d'éprouver des émotions. Et quand il dit « il faut que je tombe amoureux, sinon je vais... » ça va très mal se passer. Il dit ça dans son journal intime. Et donc, en fait, il s'est penché parfois. Il n'était quand même pas une machine. Et il prouve bien qu'il avait des affects. Et qu'il n'était pas cet être indifférent. Tombé amoureux, mais c'était en fait... c'était une midinette, en fait. Il tombait amoureux et puis c'était des amours platoniques. Oui, Andy a fait le portrait, il a fait deux portraits, en fait, le portrait de cette génération des années 60, très libre, où tout est permis, surtout à la Factory, qui est ce laboratoire d'expérimentation multiple, où à ce moment-là, il tourne beaucoup, il se met en fait à faire du cinéma à sa façon. Et puis après, il fait le portrait d'une jet set des années 70, beaucoup plus, disons, institutionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire ces gens qui, juste comme leur nom l'indique, jet-setter, voyage d'Europe... aux États-Unis, et sont des épouses d'industriels, des mannequins, des femmes riches, ou des femmes même d'hommes politiques, comme Imelda Marcos, qui l'a beaucoup fasciné. Et à ce moment-là, là, quelque chose se passe qui est une forme de vacuité. Il sent bien qu'il y a cette vacuité qui s'installe progressivement, mais comme il a le secret de ne pas confondre le vide et la vacuité, il joue comme ça en équilibre sur ses deux pieds. Et il arrive à traverser, après tout, des époques assez toxiques et assez desservelantes, en restant d'une certaine façon intact. C'est ça aussi qui est fascinant chez Warhol.
Compris après sa tentative d'assassinat dont vous parlez admirablement bien.
Voilà, il survit à un assassinat et puis après, il va traverser cette décennie des 70, les années disco, les années du club 54. Il est à des fêtes tous les soirs, sa peinture s'essouffle, d'ailleurs son art s'essouffle un peu à ce moment-là. Mais bon, il fait tous ses portraits. Enfin, son art s'essouffle, en fait, surtout dans les années 80, pardon. Parce que là, effectivement, dans les années 70, c'est la grande période du portrait mondain et de la commande au sens ancien du terme, tel que les peintres fonctionnaient dans les siècles passés. C'est-à-dire peindre les puissants du jour. Mais ce qui est fascinant chez lui, c'est comment il a pu traverser, presque sans encombre, toute cette névrose, après tout.
Alors, vous dites que Andy Warhol est une midinette, mais je pense que vous aussi. Nous allons écouter Édith Piaf, l'hymne à l'amour. Je rappelle que vous avez préfacé le livre Édith Piaf, mon amour bleu.
s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Je m'abandonne si tu m'aimes. Je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'abandonne les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.
L'image de la canonnade évoque à merveille l'irruption brutale de la maladie dans un corps qui, soudain, bouleversé, fait songer à ces contrées qu'un séisme ou un raz-de-marée propulse en quelques minutes dans la destruction, le chaos, comme en pleine guerre. Mais on a tort de penser que pareille catastrophe s'accompagne forcément d'affolement ou de précipitation, car le réel se percute souvent au ralenti, dans la ouate, comme en rêve. C'est ce que vous écrivez dans ce livre qui sort, qui s'intitule « Réanimation » et qui, après tous vos livres, Cécile Guilbert, fait comme une rupture, une césure, un nouveau souffle, si j'ose dire, puisqu'il s'agit de votre expérience à la fois métaphysique, existentielle, psychique, morale, intellectuelle, de ce qui vous est arrivé au moment où votre compagnon a été hospitalisé et mis dans un coma pendant très longtemps, sans savoir et sans que le médecin ne puisse dire ce qu'il va advenir de lui. Vous étiez pour la première fois séparé de lui, sans consentement réciproque.
Oui, c'est une expérience, j'avoue que si elle ne m'avait pas... Mais très vite, hein, dans les jours, les premiers jours de cette affaire, si je puis dire, de réanimation... Si elle ne m'était pas apparue comme extrêmement tout d'un coup riche de pensées, d'images, d'affects, de choses qui se réveillent subitement, parce que, bon, après tout, peut-être j'ai été épargné jusque-là, d'ailleurs je le dis un peu dans le livre au début, je pense que j'ai été relativement épargné, j'ai de la chance par la maladie, la mort, la souffrance, peut-être, beaucoup, et tout d'un coup, cet accident, puisque en fait l'étymologie d'accident, c'est ce qui arrive, cette catastrophe, un accident de santé, une maladie grave, c'est toujours un accident, une catastrophe. C'est ce qui arrive, et en même temps, ce qui arrive, comme disent les Grecs, en grec, quand on dit ce qui arrive, c'est théos, c'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, se manifeste quelque chose. Alors, on n'est plus grec, on croit plus aux dieux, mais peut-être que si on y pense poétiquement, cette chose, tout d'un coup, ouvre le réel, de façon, on le creuse, et surgit. Alors, j'aurais jamais pensé, a priori, que j'allais un jour me raconter intimement, raconter quelque chose qui m'était arrivé, car en tant que critique...
C'est pas votre genre.
Oui, non, mais c'est pas que je le... Il faut que quelque chose soit... Il faut qu'un événement de cette sorte soit porteur de suffisamment, voilà, d'universalité. Ça sert à rien de décrire les choses qui vous arrivent si on n'arrive pas à charrier avec soi, avec ça, un, de l'universalité, et deux, des choses qui sont encore... qui vous dépassent, comme le mythe, par exemple... Parce que quand un être est plongé donc, dans le coma en réanimation, il est dans cet état entre la vie et la mort, entre le jour et la nuit, entre l'ombre et la lumière, et tout ça remonte à des peurs archaïques de l'humanité, tout ça remonte à des mythes dont on a parlé, dont Homère a parlé, le Hypnos, Thanatos, qui sont les frères jumeaux de la nuit, qui ont le même visage, et puis toute la poétique qui est liée au sommeil, puisque l'anesthésie finalement est l'image du sommeil. Et le sommeil, c'est ce monde à la fois mystérieux, rempli de rêves ou pas, de cauchemars. C'est-à-dire qu'en fait, si cet événement ne m'avait pas été, semblait pas extrêmement fécond sur le plan littéraire, poétique, un peu philosophique, mais pas trop, parce que j'avais pas envie d'alourdir ce livre de considérations trop... comment dire ? Je voulais qu'en fait la pensée passe plutôt dans la poésie et dans une grande simplicité que dans des macérations, des réflexions abstraites. C'était pas le... Il fallait rester au plus près des émotions et toutes ces émotions se bousculaient. Ma curiosité pour le service de réanimation, qui est quand même un service au sein d'un hôpital qui est extraordinaire, plus que la chirurgie. On a toujours dit que les chirurgiens c'était les demi-dieux de l'hôpital, mais en fait depuis les années 50 ce sont les réanimateurs qui sont en fait comme des véritables thaumaturges qui ramènent les vivants de la mort, dans beaucoup de cas, parfois ils n'y arrivent pas. Mais donc fascination, curiosité, angoisse, évidemment, je ne peux pas dissimuler que cette période a été extrêmement anxiogène, et en même temps, une oscillation entre des choses nouvelles aussi qui m'arrivaient, parce qu'après tout, je n'avais jamais été aussi libre que depuis que j'étais complètement seul, seul chez moi, je n'ai pas d'enfant, je vis avec... mon mari depuis des années, donc beaucoup de choses se sont bousculées et je trouvais que ça, il y avait de quoi.
Il y a cet état que vous décrivez admirablement bien, où effectivement, quand on vit, si j'ose dire, perfusé à quelqu'un qui peut-être va se réveiller, il y a cet état qui vous autorise à larguer les amarres avec toute contrainte sociale.
Ah oui, là, alors là, c'est seul... l'alibi parfait. Là, c'est vraiment l'alibi magnifique, c'est-à-dire que voilà, on vit une situation qui est tellement exceptionnelle, mais que beaucoup de gens ont vécu d'avoir un proche malade, très souffrant, des cancers, des accidentés de la route, des gens qui ont voulu se suicider. C'est ça qu'on croise aussi, les familles de ces gens-là qu'on croise dans les services de réanimation. Parce qu'on croise des gens qui sont dans le coma, mais on croise des grands accidentés, des gens qui sont brisés, on se demande comment leur corps va être remis, des gens qui ont des infections gravissimes, enfin bon, bref, toutes sortes de... Alors ça, c'est le moyen, évidemment, de couper avec toutes les contraintes sociales. On n'a plus que les contraintes de l'amitié, on est entouré, on a des amis qui téléphonent, qui envoient des messages. Mais même les contraintes de l'amitié, on est libre aussi de répondre ou pas. Voilà, on est dans une espèce d'état exceptionnel, pour le meilleur et le pire, qui effectivement devient tout d'un coup une sorte de sas où on vit mimétiquement en fait avec l'autre. Et ce qui est aussi intéressant...
Il y a des doudous, hein, par exemple, le dernier message téléphonique.
Mais oui, parce qu'après tout, on se dit, voilà, il m'a laissé un message sur mon téléphone, mais est-ce que ça ne sera pas le dernier que j'entendrai à jamais ? Il va s'effacer, parce qu'à l'époque, j'avais un téléphone où on ne pouvait pas garder les messages, il s'effaçait au bout de 8 jours. Ce qu'il m'a dit, sa voix, le son de sa voix, est-ce que c'est le dernier son de sa voix que je vais entendre ? Je prenais des photos aussi, je regardais ses photos. En même temps, ce n'était pas très bon de regarder ses photos, parce que c'est des photos qui sont à la fois mortifères, en même temps, c'est des photos du corps... familier, enfin c'est très étrange, il y a beaucoup de choses qui se bousculent, il y a ce corps qui a l'air comme ça, un corps cadavérique, qui est dans une position de gisant, qui fait penser à des Christ morts, des Christ qu'on voit en peinture, et puis en même temps c'est un corps que les infirmiers déplacent et qui parfois prend des positions qui sont presque érotiques, donc c'est aussi un corps de désir, enfin c'est extrêmement ambivalent, donc du coup il y a une richesse de signification et d'image, je trouve, qui est fascinante. Pendant tout ce moment-là, j'avais des images qui collaient au cerveau. Après, je m'interdisais un peu de regarder les photos parce qu'il y a des moments où j'étais très angoissé. Je me disais, c'est pas bon de se fixer sur ces images qui sont celle d'un homme qui peut-être dort, mais avec des machines. Et donc, c'est aussi quand même une image quasi cadavérique. Et c'est aussi une image qui ressemble à ce qu'on voit dans la science-fiction, c'est-à-dire dans Métropolis, on voit toutes ces créatures allongées qui sont en cours de reparamétrage, ou dans Frankenstein, tout d'un coup, les vampires qui se lèvent tout d'un coup des cercueils qui se redressent et qui sont comme des zombies. Enfin bon, il y a beaucoup de significations, de fantasmes, de lutte contre l'imagination. On dit que l'imagination, c'est la folle du logis. Depuis la philosophie classique, c'est la folle du logis. C'est-à-dire que si on laisse prendre dans les délires d'imagination... Ça peut être terrible. En même temps, c'est fascinant parce que ça peut être une imagination heureuse comme dans les contes de fées.
Vous parlez beaucoup des contes de fées à l'intérieur de ce livre.
Oui, parce qu'au fur et à mesure que le livre va vers de la lumière et de l'apaisement, j'ai trouvé qu'il était bon aussi de rameuter ces choses qui sont aussi archaïques que les mythes, mais qui ont été fixées par les conteurs, les frères Grimm, Charles Perrault, c'est-à-dire les contes de fées qui sont toujours des histoires d'initiation. Et qui passe par des sommeils magiques. Alors la Belle au bois dormant qui se pique avec un fuseau, on ne sait pas si elle se réveillera un jour, il lui faudra un prince charmant. Blanche-Neige qui mange cette pomme, qui tombe morte, mais en même temps qui a l'air vivante, qui respire. Bon, c'est des images que je trouve extrêmement fécondes, et qui sont aussi des contes très délicats, écrits dans des langues très simples. C'est apaisant de lire ça, et en même temps, on se dit, est-ce que moi aussi je vais pouvoir vivre un peu ce qui serait un conte de fées? Après tout, ça serait la résurrection, le réveil du malade et la guérison.
Dans le mouvement même de l'écriture de réanimation, vous avez décidé de prendre l'ordre chronologique et d'être au plus près de vos perceptions, de vos sensations, de vos impressions, de vos zones aussi aveugles. Et vous arrivez, alors ça je pense que c'est l'écrivain en vous qui a pu arriver à cela, c'est-à-dire que dans ces situations-là que chacun de nous a vécu, les auditeurs aussi, eh bien, il y a une sorte de temporalité étrange qui s'empare de vous. Vous êtes dans la vie, hélas, parce que l'autre n'y est pas tout à fait, mais vous, vous y êtes, vous êtes bien obligé d'y être. Et le temps se suspend et en même temps, le temps est à la fois avec vous et contre vous. Et de ces différentes temporalités, comme des sédimentations... de vie ou de survie, vous arrivez à en écrire. Est-ce que vous avez tenu un journal pendant tous ces mois-là ?
J'avais commencé à tenir un espèce de petit journal dans lequel je m'adressais à mon mari en réanimation, parce que je me disais que le jour où il sera réveillé, parce que j'étais portée évidemment par un optimisme, et je me disais un jour on va le réveiller, il sera guéri. Il faudra que je lui restitue ce moment qui sera un trou noir pour lui, parce qu'après tout il a été opéré. Donc anesthésié, et puis en fait, on ne l'a pas réveillé pendant des jours. Et il faudra lui restituer ça. Et donc, dans ce petit journal, je m'adressais à lui et je lui racontais un peu ce qui se passait dans mes journées. Il ne se passait pas grand-chose, à vrai dire. Mais je lui racontais surtout toutes les manifestations d'amour et d'amitié qui s'étaient produites. C'est-à-dire tous les amis qui m'avaient appelé, qui prenaient de ses nouvelles, tous les gens qui se souciaient de lui, qui envoyaient des mails, qui envoyaient des messages. Et puis les menus incidents de la vie quotidienne, et je lui racontais même de quoi il avait été victime, et je lui racontais comment on le soignait, pourquoi on l'avait endormi, etc. Et puis, évidemment, quand il a été guéri, je lui ai fait lire ça, et donc il a été heureux, et ça l'a beaucoup ému de lire ça. Mais en fait, ça n'avait aucune valeur littéraire, c'était extrêmement sentimental, à la fois trop sentimental et trop trivial, et je ne pouvais rien en faire. Donc ce petit journal ne m'a servi qu'à la chronologie globale des événements. C'est-à-dire, je ne peux pas raconter le livre, mais il s'est passé, il y a une sorte de suspense dans le livre, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Pendant ce moment précisément arrêté, il se passe quand même des choses, parce que les médecins continuent à vous faire des examens, à vous opérer, il se passe plein de choses.
Mais ils ne savent pas, surtout, c'est ça que vous dites.
Donc je m'en suis servi pour la chronologie, mais en fait, je ne voulais pas que le livre soit étroitement chronologique. En même temps, je le scande de sortes de petits billets datés, pour que le lecteur se rende compte de combien de temps ça a duré, mais en même temps, c'est totalement abstrait, cette affaire, parce que ça aurait pu... On ne sait pas exactement combien de temps ça a duré. Je le restitue pour qu'on puisse le comprendre. Mais en fait, à la fois, c'est comme à chaque fois qu'on va dans un hôpital, la pulsion de vie et la pulsion de mort qui se combattent sont si fortes que dès qu'on sort d'un hôpital, on a l'impression que toute la vie autour, même si on vit dans une ville vrombissante comme Paris, dans un quartier où se trouve l'hôpital, qui est vrombissant de vie, de bruit, de foule sur les trottoirs partout, on sort de là, tout est déréalisé toujours. Et puis après, le temps devient une sorte d'obsession, parce qu'on voit les jours qui se passent, et puis c'est toujours cette réanimation qui continue. Pas de réveil, pas de guérison. Et en même temps, on s'ébroue dans une liberté. Le jour et la nuit s'équivalent, finalement, on se dérègle. Moi, la réanimation, si vous voulez, c'est la réanimation de cet homme, c'est ce service de réanimation, et c'est aussi la réanimation de la narratrice qui, se réanime à la vie et à l'amour parce qu'elle est plongée dans cette situation inédite. Et donc, elle, par exemple, qui avait un sommeil de plomb, qui dormait comme un bébé, dont elle fait voilà, une sorte comme ça de martingale de santé toute sa vie, tout d'un coup, son sommeil se dérègle, elle est réveillée en pleine nuit, alors que l'autre est plongée dans cet état qui n'est ni le jour ni la nuit, qui est une espèce de sommeil indéfini. Et donc, voilà, toutes ces choses s'entrechoquent. Et effectivement, le temps devient à la fois parfois très rapide, parfois très lent. Il y a des accélérations, parfois il y a des moments de joie aussi, parce qu'il y a des moments où elle ne va plus à l'hôpital, elle se dit « bon, je ne vais pas y aller quand même constamment tous les jours pour voir ce zombie qui, de toute façon, ne se réveille pas, à quoi ça sert ? Et si je profitais un peu du soleil, et si je m'occupais un peu de moi, et si j'étais un peu égoïste ? Et si je me faisais plaisir ?» Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être là comme une sorte d'être dans un syndrome de veuvage approché, vous savez, comme les expériences de mort approchée, les expériences de veuvage approché. Il ne s'agit pas d'aller pleurer. Moi, j'ai presque jamais pleuré pendant cette affaire. J'étais extrêmement émue, extrêmement bouleversée, extrêmement angoissée parfois. Mais je n'étais pas dans un état de décomposition. J'étais toujours vivante. Et au contraire, j'avais l'impression que ça me donnait de la force et que je pensais à plein de choses et que je me disais, je vais faire un livre. C'est fascinant tout ça.
Enfin, on ne va pas raconter la fin du livre, mais on peut dire que quand on se réveille de la mort... Pour les vivants, c'est formidable, mais pour la personne qui se réveille, ça l'est moins.
Bah oui, c'est-à-dire que j'ai dû aussi comprendre ça avec le temps, c'est que quand un être est en réanimation, finalement, il ne souffre pas. Surtout quand il est plongé dans un coma thérapeutique. Il ne souffre pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on le plonge dans un coma thérapeutique, pour l'empêcher de souffrir et continuer à pouvoir le manipuler ses chairs à vif sans qu'il n'en éprouve aucune sensation. Donc c'est un cauchemar pour ceux qui assistent à ça. C'est un état de non-sensation pour celui qui en est la proie. Et après, les choses s'inversent. C'est-à-dire que quand cet être se réveille de réanimation, c'est une délivrance pour ceux qui sont vivants et autour de lui. Et pour lui, c'est un cauchemar. Parce que là, toutes les sensations reviennent et qui sont des sensations, paraît-il, c'est ce qui m'a été raconté, extrêmement désagréables. Et tout le corps se réveille souffrant, amoindri, meurtri. Toutes ses fonctions digestives ont été bouleversées puisqu'il a été intubé, nourri par sonde. Enfin, tout le corps est détraqué, celui qui se réveille de réanimation. C'est comme une nouvelle naissance, comme s'il était expulsé, un peu comme de la nuit utérine, mais pour être projeté dans quelque chose d'extrêmement violent. Parce que quand on s'éveille à la nuit, quand on est, on s'éveille à une forme on se réveille à cet état hanté qui était celui du liquide amniotique. Et puis quand on se réveille de réanimation, voilà aussi, on se réveille à un monde de non-sensations, mais qui vous projette dans quelque chose qui, tout d'un coup, le grand jour, les bruits, les sons, tout, quoi. Toutes les cinq sens sont de façon aiguë, en alerte. Et il paraît que c'est extrêmement désagréable et extrêmement éprouvant. Ceci étant, c'est une épreuve, je pense, pour qui l'a vécu comme une seconde naissance. C'est forcément comme tout réveil, une résurrection. Et c'est comme une traversée de quelque chose d'archaïque et dont beaucoup d'individus ont fait l'expérience. Je ne sais pas si c'est une chance de connaître ça dans sa vie. Il faut être à la place de la personne qui l'a vécu pour répondre. Et métaphysiquement, je ne peux pas me mettre à sa place. Donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne sais pas si c'est une chance d'avoir été vivant dans ce sas ou d'avoir été dans cette mort vivante ou cette vie mourante à un moment de son existence terrestre et biologique. Je ne sais pas si c'est une chance, si c'est une bénédiction, si c'est un malheur ou une malédiction, mais en tout cas, c'est une expérience dont il a été témoigné depuis les origines. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel Quignard travaille beaucoup, et je dois dire, il faut que je rende hommage à Pascal Quignard, car pendant l'écriture de Réanimation, j'avais auprès de moi ses livres « Les derniers royaumes », où il y a énormément d'épisodes qui sont à la fois pris dans la mythologie grecque, dans des histoires humaines à travers les siècles, sur cette affaire.
Merci Cécile Guilbert. Donc votre livre s'intitule « Réanimation » et il paraît aux éditions Grasset. Thank you. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, Julie Garraud, Brigitte Bouvier, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost et Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture, dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.